Le grand face-à-face en direct est jusqu'à 14h avec au sommaire de l'émission ce dimanche le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann et vers 13h30 retour sur la déflagration politique de la fin de la semaine, les accusations d'agression sexuelle contre le numéro 3 du gouvernement, le magazine L'Hebdo en a fait l'affaire. Nicolas Hulot, l'avocat Jean-Pierre Mignard y voit le triomphe d'une société de rumeurs. Vomitoire, c'était son verdict, et si ce n'était pas le fin mot de l'histoire, nous ouvrirons le débat avec Jean-Pierre Mignard, qui sera notre invité dans une quinzaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Comme tous les dimanches, on revient avec vous sur les temps forts de la semaine. Et pour commencer, c'était mardi dernier, le président de la République se rendait en Corse. Une visite chargée d'émotions avec l'hommage au préfet Claude Erignac. Visite qui est vite devenue très politique. Emmanuel Macron qui était attendu de pied ferme par les élus corses. Et voici ce qu'il leur disait.
Personne ne vous reprochera de vous dire Corse mais Français. Corse et Français. Corse parce que Français, Français parce que Corse et Européen. Dans cette identité indissociable se trouve la puissance de vos lendemains.
Voilà ce que disait notamment Emmanuel Macron. La républicaine que vous êtes, Natacha, aurait dû être satisfaite. Et puis vous avez publié un papier dans le Figaro, c'était hier, en accusant le président de néocolonialisme. Rien que ça.
Rien que ça, oui, parce que il n'y avait pas que cette citation. D'abord, il y a eu l'hommage au préfet Erignac, qui était nécessaire. Et il était nécessaire de dire fermement à quel point ce moment de l'histoire de France était absolument ignoble. Sauf que ce moment-là avait justement décrédibilisé la violence et ouvert la possibilité d'autre chose. Or, je pense qu'on ne peut pas tout simplement faire comme s'il n'y avait pas une aspiration démocratique qui se manifeste de façon spécifique en Corse, étant donné l'histoire de la Corse, mais qui se manifeste un peu partout dans le pays. Or là, ce qu'a fait le président de la République, c'est d'imposer une fin de non-recevoir, tout simplement.
Néocolonialisme.
Rien, aucune réflexion sur les aspirations démocratiques qui font que justement des citoyens peuvent demander exactement ce qu'il dit dans la citation que vous avez mis, d'être à la fois Corse, Français, c'est-à-dire des strates identitaires qui permettent de préserver la volonté de se construire un destin en commun, mais de choisir ce destin. Or, non, ce qu'Emmanuel Macron leur a expliqué, c'est qu'ils étaient des méchants ringards, qu'ils étaient du côté de la fermeture plutôt que de l'ouverture, qu'ils ne pensaient pas au métissage, c'est-à-dire des espèces de poncifs pour décrédibiliser absolument toutes les demandes. Je ne suis pas pour qu'on réponde aux demandes des nationalistes parce qu'elles sont anticonstitutionnelles. En revanche, ne même pas réfléchir aux problèmes qui sont posés là, me semble d'une pauvreté incroyable.
Avant d'écouter Raphaël, d'un mot, la Corse est une colonie française ?
Non, c'est pas ça que je veux dire. Je ne pense pas que la Corse soit une colonie française. Je pense en revanche que la façon dont le président de la République s'est adressé aux Corses les mettait dans cette position-là et ça me semble une erreur absolument fatale.
Raphaël Glucksmann.
Alors, même si j'emploierai pas le mot néocolonialisme.
Je ne l'emploie pas non plus dans le papier, c'est une traduction d'Ali.
C'est un titre.
J'ai choisi de ne pas l'employer.
Okay. Bon acte.
Vraiment, je pense qu'il y a là une occasion un peu manquée parce que le candidat Emmanuel Macron était un candidat qui parlait de pacte girondin, qui parlait de rompre avec les habitudes d'une république centralisatrice, qui était donc censé incarner un souffle nouveau. Et ce souffle nouveau pouvait rencontrer un autre souffle nouveau qui est effectivement lié au rejet après l'assassinat abject du préfet Erignac de la violence et le souffle nouveau qui est incarné par Monsieur Simeoni qui n'a plus rien à voir avec les espèces de cagoulés qui
n'appellent
la cause corse. Et donc il y avait là la possibilité de discuter sérieusement d'une nouvelle approche et d'un nouveau contrat d'inspiration girondine qui serait une forme de rupture avec un jacobinisme d'État français et malheureusement ça a pas été exprimé par
il aurait par exemple fallu écouter la revendication de faire du Corse une langue officielle au même titre que le français.
Non, mais il fallait venir avec des contre-propositions aux revendications nationalistes pour qu'il puisse y avoir ensuite un dialogue qui soit basé sur autre chose qu'une approche où on réaffirme de manière constante un jacobinisme qui pourtant n'était pas ce que Macron incarnait pendant la campagne électorale.
Une large majorité des Français approuvent le président de la République. C'est un sondage Odoxa pour le Figaro et France Info qui le dit. 2 sondés sur 3 sont opposés à un statut de région autonome pour la Corse.
Bien sûr, parce que beaucoup de Français en restent à l'idée que des mafieux et des terroristes corses ont pourri la situation pendant des années. En revanche, je pense qu'ils oublient de réfléchir au fait que ce qui s'est dit dans les urnes en Corse, se dit un peu partout ailleurs d'une autre manière. C'est-à-dire à chaque fois, c'est le besoin pour les citoyens d'exprimer leur appétit de démocratie.
Ça comment s'est fait en Corse à travers la diversité dans la République.
Oui, bien sûr.
À la diversité, ouais. Et à la possibilité d'affirmer que par le local, on peut atteindre aussi l'universel.
Mais bien sûr, Raphaël Luxman.
Et surtout,
vous êtes à deux doigts, Natacha, de vous faire accuser de communautarisme.
Non.
Ce serait paradoxal.
Je peux y répondre.
Justement, vous allez y répondre, Raphaël, puis vous nous expliquerez
non,
ça.
Non, c'est la capacité d'avoir un rapport multiple et complexe à l'identité. Et c'est ça qui est raté dans ce discours, c'est que la République est une et indivisible. Elle ne veut pas elle ne veut pas des citoyens unidimensionnels, cette République, à moins qu'elle soit absolument jacobine, ce qui n'est pas le cas de la République française telle qu'elle a été fondée. Il y avait des Girondins et des Jacobins et ça a été une grande discussion et parfois qui se tranchait à la guillotine. Mais le fait est qu'on peut être à la fois très attaché à son identité locale, très attaché à la France, à la République française, et très attaché à son identité européenne. Qu'on peut avoir 3 attachements qui peuvent se matérialiser dans des prérogatives distinctes, et c'est le sens de l'histoire, et c'est le sens même, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est le sens même de ce que pouvait incarner Emmanuel Macron, candidat décomplexé, libre, et voire libéral, assumé. Et c'est ça qu'il ne veut plus faire, parce qu'il veut être Jupiter, qui incarne l'autorité de l'État, une autorité forcément verticale, qui tend à crisper les
contre les communautaristes comme Natacha Polony.
Alors, Ali, plusieurs choses. D'abord, la mention du français comme langue de la République, ça vient de Jacques Toubon et Alain Lamassoure pour lutter contre les anglicismes, vous voyez. Et c'est aujourd'hui utilisé pour oublier que, certes, le français et la langue de la République, mais pour autant, il y a une richesse des langues en France qui traduit la richesse de la diversité historique et géographique de la France. Et qu'il serait totalement dommage que la France se prive de cela, dans la mesure où, si on se reporte par exemple à Jules Ferry...
Le Corse est enseigné dans les écoles, en Corse.
Mais bien sûr, sauf qu'il faut permettre aux Corses de survivre comme langue. Ce qui est important parce que c'est une richesse pour la France. Et tout simplement, Jules Ferry n'était pas tout à fait communautariste, et pour autant, il incitait à s'appuyer sur l'amour des petites patries pour ensuite mener vers l'amour de la patrie. Il me semble que c'est une conception du rapport entre l'un et le multiple qui me semble assez intéressante.
À condition que cet amour des petites patries soit ouvert.
Or,
ce que nous propose, quand on l'écoute, Simeoni, par exemple, c'est pas un amour fermé et un esprit de clocher absolument hostile à ce que pourrait représenter la France. Donc il y a une matière là à discuter.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Luxman, le duel.
Raphaël, ce que vous retenez de l'actualité et de la semaine notamment, c'est la vague de froid qui s'est abattue sur la France et ses conséquences pour les sans-abri et ce qu'ont déclaré certains politiques.
Voilà, ce que je retiens, c'est cette série de phrases qui, moi, m'ont particulièrement choqué cette semaine. Tout a commencé par Sylvain Maillard, député de La République En Marche, qui nous explique que les sans-abri qui sont dans la rue y sont parce qu'ils ne veulent pas s'abriter. Puis Gérard Collomb, parlant des mineurs migrants isolés, qui nous explique que s'ils restent à la rue, c'est qu'ils ne veulent pas d'accueil. Ou le ministre de Normandie, qui nous explique qu'il n'y a que 50 sans-abri la nuit à Paris. Donc, quelqu'un qui est aussi peu gauchiste que Louis Gallois, dans le journal du dimanche, s'en offusque, et il a bien raison. Pourquoi toute cette série de phrases, alors que la France connaît ce grand froid, et que nous témoignons tous, en marchant sur nos trottoirs, du fait que l'objectif fixé par Macron de 0 personnes qui dorment dehors est démenti par les faits. Pourquoi cette série de phrases? Est-ce que c'est juste pour couvrir le chef qui avait annoncé un objectif qu'il n'a pas tenu? Ou est-ce que ça... ou est-ce que ça dit quelque chose de plus profond du
Le chef, c'est Jupiter, Emmanuel Macron, qui déclarait en juillet dernier, je le cite, « Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. »
Donc là, il y a de la neige et il y a aussi des hommes et des femmes dans les rues. Et est-ce que ça dit quelque chose de plus profond? Est-ce que ça dit quelque chose d'un manque d'empathie, d'une forme d'arrogance de ces winners, de ces gens qui sont des adeptes du « si tu veux, tu peux » et qui nous expliquent donc que si les gens sont dans la rue, c'est qu'ils le veulent bien? Alors, le nouveau monde qu'on nous avait promis, vu des trottoirs, il a proprement une sale gueule. Et c'est pas en niant la misère comme ils le font dans ces phrases qu'on va s'attaquer à la misère. Et donc moi, la seule chose que je voudrais dire, c'est faites attention, chers amis de la Macronie, parce que cette arrogance-là, cette manière de ne pas voir ce que subit l'autre, eh bien, c'est extrêmement dangereux pour vous et pour la France.
Je pense qu'il faut justement dans ce domaine-là entrer dans la complexité. Par exemple, il y a certains SDF, et ce n'est certainement pas la majorité, qui ne veulent pas aller en centre d'hébergement la nuit. Pourquoi ? Parce qu'ils s'y font voler leurs affaires, ils s'y font agresser. Quand ce sont des femmes, c'est encore pire. Et dernier point, il y a une question psychiatrique. La psychiatrie vit aujourd'hui une situation absolument dramatique en France, avec une absence totale de moyens pour accueillir. Or, nous avons parmi les sans-abri en France beaucoup de gens qui, en fait, devraient être suivis et soignés, et qui ne le sont pas, et ça participe de leur descente aux enfers et du fait qu'ils ne peuvent pas se réintégrer.
Vous avez raison, le problème,
il faut absolument dire ça. La psychiatrie, c'est un domaine crucial.
Vous avez raison, mais moi, ce qui m'intéresse dans ces phrases, c'est comment on prend certains cas pour en faire une loi générale, donc s'exonérer de toute question politique. Et ça, c'est absolument, à mon avis, désastreux. C'est-à-dire que l'ensemble des associations qui travaillent sur le terrain, qui font des maraudes, nous expliquent que quand on appelle les numéros d'urgence, eh bien, 70% des cas, ça ne décroche pas. Et que donc les gens ne choisissent pas de dormir dehors. Ils sont contraints de dormir dehors. Et d'autre part, puisqu'on on est dans une logique, si on écoute le président de la République, d'ouverture sur ce qui se fait ailleurs dans le monde, généralement c'est un argument qui est utilisé pour rogner sur les droits sociaux, eh bien on pourrait s'inspirer de ce qui s'est passé par exemple en Finlande. En Finlande, un pays européen, eh bien on a accompagné les sans-abri vers un logement pérenne. Et finalement on s'est rendu compte de quoi en leur fournissant des logements aux sans-abri? Eh bien, on s'est rendu compte qu'à la fin, ça coûtait moins cher à la société. Parce que ça coûtait beaucoup moins cher en frais d'hospitalisation, en frais de justice, et que donc, il y avait dans le pari de la solidarité, quelque chose qui, en plus, pouvait faire en sorte d'économiser de l'argent. Donc, c'est pourquoi ce pari-là n'est pas tenté chez nous?
C'est une bonne question, elle est posée, elle est ouverte. Et puis cette semaine aussi, il y a eu cette jeune fille, Menel Ibtissem, candidate de The Voice sur TF1, qui a choisi de quitter l'émission. Une histoire qui raconte beaucoup plus de choses qu'une simple histoire, un simple épisode dans la vie d'un télécrochet.
Salut, shalom, salam. Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. Ces tensions masquent ma volonté de faire l'apologie de l'amour, de la paix et de la tolérance. J'ai donc pris, aujourd'hui, la décision de quitter cette aventure.
C'était la voix de Menel Ibtissem, d'abord dans The Voice, chantant Alléluia en anglais et en arabe, ensuite dans une vidéo qu'elle postait sur Facebook vendredi dernier, une candidate mise en cause pour des tweets au moment des attentats de Nice, accusée de complotisme et de sympathie pour les thèses de Tariq Ramadan, et une histoire, Raphaël Glucksmann, qui vous a alerté.
Oui, parce que elle n'était pas candidate à la députation. Elle n'était pas candidate à diriger mon pays ou à faire des éditoriaux dans les médias publics. Et donc, elle était une chanteuse. Bien sûr,
elle l'est toujours.
Elle est toujours, mais une candidate à The Voice. Bien sûr que ses tweets sont abjects de complotisme. Bien sûr qu'elle a fait fausse route. Bien sûr aussi que c'est complètement fou qu'on se retrouve dans une situation où une candidate à The Voice se voit scrutée et l'objet d'une campagne de dénigrement, alors même que dans des médias d'information, pas des émissions de divertissement comme celle de TF1, dont je n'avais rien à foutre avant de la découvrir à travers cette affaire, eh bien, dans des médias d'information, on a des chroniqueurs comme Zemmour qui sont payés pour débiter du révisionnisme pétainiste. Et donc là, il y a quand même un paradoxe, c'est-à-dire que on va aller faire une campagne sur une jeune chanteuse et finalement l'acculer à disparaître. Et moi, je trouve que c'est extrêmement triste ce qui se passe.
Natacha Polony.
Je pense que ça peut avoir des conséquences extrêmement graves, même si ce n'est qu'une affaire de télécrochet. Pourquoi ? Parce que cette jeune fille est assez représentative de ce que peuvent penser et ressentir beaucoup de jeunes gens de confession ou même de culture musulmane en France, c'est-à-dire cette espèce de réflexe complotiste que je déplore, qui est absolument lamentable, mais de fait, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Deuxième chose, il y a cette idée chez beaucoup de jeunes gens de confession musulmane que les musulmans seraient maltraités en France et les islamistes en jouent. Écoutez ce que Salah Abdeslam a dit lors de son procès. Les seules phrases qu'il a prononcées avant de se murer dans le silence, c'était justement pour faire passer une fois de plus ce message-là. Les musulmans sont victimes et maltraités.
Mais quoi de commun donc, entre donner, cette jeune fille donc, et Salah Abdeslam ?
Non, je dis que ce qu'elle est en train de subir risque de donner raison à Salah Abdeslam et c'est très grave. C'est-à-dire qu'elle est elle a le droit. Je déplore qu'elle adhère aux thèses de Tariq Ramadan parce que je pense que ces thèses sont dangereuses et que beaucoup de jeunes gens ne s'en rendent pas compte. Simplement, c'est pas comme ça qu'on combat la diffusion des thèses de Tariq Ramadan. Et je pense que cette jeune fille, en effet, comme l'a dit Raphaël, est chanteuse. Elle est là pour chanter. Elle le fait très bien. Et des gens qui disent des stupidités parce que ce n'est pas leur métier de d'émettre une pensée politique, il y en a beaucoup. Je ne vois pas pourquoi elle devrait subir cela et ça risque d'avoir des conséquences vraiment très dommageables pour la société française dans son ensemble.
Raphaël Lussmann, avant d'accueillir notre invité Jean-Pierre Mignard.
Justement, elle n'est pas Tariq Ramadan.
Exactement.
Et on peut, oui, je suis d'accord avec vous, elle n'est pas Tariq Ramadan. On peut accuser les gens qui ont fait preuve de cécité vis-à-vis des idées de Tariq Ramadan et bien de faire preuve de cécité. Là, on parle d'une chanteuse. Et donc, quel effet ça va produire ? Je suis d'accord, ça va produire un effet d'exclusion, de sentiment d'exclusion décuplé, et au lieu d'avoir une grande discussion justement sur le complotisme, d'ailleurs qui n'est pas le propre juste des jeunes musulmans, puisque une étude récente du Fonds de la Fondation Jean Jaurès est alarmante sur l'état du complotisme dans la jeunesse française en général, mais au lieu d'avoir une discussion sur le complotisme, au lieu de trouver ensemble comment on va combattre cette idéologie et cette tendance complotiste, eh bien on fait d'une jeune chanteuse un épouvantail, un bouc émissaire, et finalement une martyre de l'exclusion. Et donc c'est à mon avis complètement contre-productif et extrêmement nocif.
Dont acte, le grand face-à-face de France Inter en direct jusqu'à 14h.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
C'était aussi cette semaine déflagration politique et médiatique. Nicolas Hulot accusé d'agression sexuelle, voire de viol, dans une enquête du magazine L'Hebdo. Écoutez-le se défendre, c'était jeudi matin au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC.
Moi, j'ai peur de la rumeur, mais il y a une chose dont j'ai pas peur, c'est de la vérité.
Alors que dit cette histoire ? Nouvel épisode du mouvement d'émancipation des femmes ou est-ce au contraire la preuve que nous sommes entrés dans une société de rumeurs ? Les mots sont entre guillemets. Ils sont de Jean-Pierre Mignard qui est notre invité, avocat de Mediapart depuis sa création, président du comité d'éthique d'En Marche. C'est aussi un intellectuel engagé. Bonjour Jean-Pierre Mignard.
Bonjour.
Et bienvenue. Société de rumeurs, l'expression est de vous et on va en débattre. Qu'est-ce qui vous a donné envie, puisque vous étiez l'un des premiers à réagir publiquement, envie d'en parler sous cette forme-là. Une société de rumeurs est une société détestable, vomitoire.
Oui, je le pense, puisque notamment lorsqu'elle touche à l'honorabilité des personnes, à leur réputation, à leur crédit personnel. Et là, d'ailleurs, pas seulement une personne, mais deux personnes. On y reviendra. Ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est qu'avant même la sortie du journal, il y a toute une période, de peut-être une semaine à 10 jours, où on entretient, alors sans que personne ait la possibilité de vérifier quoi que ce soit, puisque personne n'a le journal à sa disposition. On multiplie les informations qui n'en sont pas, des indications. On grossit une affaire, ce qui fait que nous achetons le journal. Alors c'était peut-être d'ailleurs...
Vous l'avez d'ailleurs apporté avec vous et en couverture.
C'était peut-être l'opération cachée, d'ailleurs, il y en a peut-être. Comme il y avait un imam caché, il y a peut-être une opération cachée. Et bien évidemment, on veut en savoir plus, puisque ce qui est distillé va susciter chez nous une curiosité qui n'est pas la meilleure. Mu par cette curiosité malsaine, cette intention d'en savoir plus, puis après tout, ça concerne un ministre de la République, ça pourrait ne pas être indifférent, donc nous achetons. Et lorsque je lis l'article, je lis peut-être d'ailleurs avec le prisme peut-être trop austère, trop rigide du juriste, après je ne m'interroge plus sur ce qui est dit, mais sur la justification de l'article lui-même, sur la justification de cette pseudo-information.
On va tout de suite ouvrir le débat.
Avec l'idée simple, je lis, et qu'est-ce que j'en fais ? Car lorsque j'ai une information, en tant que citoyen, je dois me dire, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Et là, je ne peux rien en faire.
Vous ne pouvez rien en faire. Il faut dire que dans le magazine L'Hebdo, la jeune femme qui avait porté plainte pour viol contre Nicolas Hulot n'est pas citée nommément. Ce sont d'autres titres de presse qui l'ont fait. D'abord Le Point, très rapidement, et puis Le Parisien, le jour même de la parution de L'Hebdo. Natacha ?
Oui, je pense que, en effet, une information est là pour être reçue et pour permettre à des citoyens de penser. Or là, quand nous lisons cet article, nous ne pouvons absolument pas nous faire une idée. Or, le fait que cet article existe, nous sommes de nous faire une idée et de choisir. Nous ne sommes pas en position de le faire car nous n'avons pas les éléments. Pourquoi ? Parce que juridiquement, il y a deux affaires qui sont citées. La première en un paragraphe et qui n'existe pas puisque la victime supposée dit elle-même qu'il n'y a pas d'affaire. Et la deuxième, beaucoup plus grave, puisqu'en effet on parle de viol. Et là, les éléments juridiques n'existent pas puisque la plainte a été déposée après la prescription et donc il n'y a pas d'enquête. Donc que devons-nous faire ? Alors ce n'est pas une société de rumeurs, c'est simplement une société où une forme de justice populaire et médiatique se substitue à la justice qui est celle qui doit être rendue au nom du peuple français. Et c'est cela qui me semble profondément dérangeant, dangereux.
Raphaël Hussmann.
Moi, j'ai un profond malaise. J'ai un malaise, et j'en ai fait part d'ailleurs quand on a décidé du thème du débat, par SMS avant même d'organiser l'émission. J'ai un malaise parce que l'article en tant que tel ne nous permet effectivement pas d'avoir un avis quelconque. Et donc, on peut parler là d'un problème profond. Après, depuis 3 jours, on explique doctement absolument partout ce n'est pas une information, qu'on rejette cette parole qui est transmise. Et moi, je suis dans une situation de malaise. Je ne peux absolument pas choisir un camp. Je refuse, en fait, parce que je n'ai pas les informations, je n'ai rien. Mais je refuse aussi qu'on discrédite a priori la parole de quelqu'un qui explique avoir été victime d'un viol. Or, dans certains éditoriaux que j'ai lus, on m'explique que c'est absolument rien du tout, cette affaire. Or, je ne sais pas, moi je connais Patrice de Saint-Exupéry, c'est ses articles, donc le directeur
de la rédaction de L'Hebdo.
De L'Hebdo. Ce sont ses articles sur le Rwanda notamment qui m'ont fait m'éveiller à ma citoyenneté et au monde. C'est quelqu'un d'une rigueur exemplaire.
Grand reporter, très grand journaliste.
Au Figaro. Et je ne peux pas imaginer en fait qu'il n'y ait que cet article.
Jean-Pierre Mignard.
Oui, je... Vous vous rendez compte ?
C'est pour ça que je dis c'est un malaise.
C'est très passionnant, ce que vous venez de dire, d'ailleurs, parce que je le partage. Je me dis, mais pourquoi prendre de telles responsabilités ? Alors, est-ce qu'il n'y a rien ? Ce qui fait que, je vous entendais tout à l'heure...
Mais encore une fois, c'était pas rien.
Mais alors, peut-être y a-t-il quelque chose pour avoir fait cela ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Il y a quelque chose.
C'est-à-dire,
il y a en l'occurrence une jeune femme qui a porté plainte pour viol. En 2008.
Mais il n'est pas question de la discréditer. Je veux dire, ce serait aberrant.
Donc il y a un fait.
Mais il y a un fait.
Contre
à l'évidence, il y a eu une plainte qui a été déposée. Elle a été déposée 11 ans après les faits, de la part d'une personne dont d'ailleurs je ne vais pas donner le nom parce que on va pas en rajouter, c'est pas la peine, c'était suffisamment fait, qui d'ailleurs me semble d'un niveau de compréhension, d'intelligence, qui fait que si elle choisit de déposer 11 ans après et pas 9 ans après, c'est un sens, et pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire qu'il y a une prescription, nonobstant cela, le procureur de la République fait quand même une enquête, elle est entendue, et je pense que Nicolas Hulot est entendu aussi, puisque dans le texte du parquet, il a indiqué que la position des deux parties est contradictoire. Donc il y a en plus eu un interrogatoire, une audition de Nicolas Hulot. Voilà ce que l'on peut dire en l'état, rien de plus. Ce sont des faits qui datent de 20 ans. Donc bizarrement, cette affaire qui nous est présentée comme étant un fait public, sur lequel je suis d'accord avec Natacha Polony, on pourrait mettre une opinion qui effectivement susciterait de la part des citoyens, par exemple, la position suivante. Est-ce que Nicolas Hulot est encore digne d'appartenir à un gouvernement ? On ne peut rien faire parce que, bizarrement, les conditions dans lesquelles cette affaire a été portée à la connaissance de la justice, laquelle a dit « mais en l'état, nous ne pouvons pas et nous ne pourrions peut-être pas », est redevenue une affaire purement privée. D'ailleurs, le mot « intime » apparaît ici ou là, puisque je pense qu'un de mes confrères, qui est l'avocat, parle de questions intimes qu'on souhaite... D'ailleurs, il faut peut-être s'interroger sur une chose. Comment se fait-il que cela ait été rendu public alors qu'à l'évidence, cette jeune femme, qui maintenant, a peut-être 40 ans maintenant, ne souhaite pas du tout que tout ça soit rendu public.
C'est très stupéfiant. Ça arrive quand même à un moment très particulier de la vie de la société française. Pourquoi demander d'écouter les témoignages des femmes qui prennent la parole pour dénoncer les abus, les agressions sexuelles dont elles ont été l'objet Et pourquoi ne pas écouter la souffrance de cette femme-là?
Je pense que les femmes... Ah bon, pardon.
Non, allez-y, Jean-Pierre Mignard, non, je vous ai soumis Natacha pour qu'elle prenne la parole ensuite.
Les femmes ont eu raison de faire ce qu'elles ont fait. D'ailleurs, c'est bizarre quand même que cette société ait découvert que les hommes soient susceptibles, c'est presque anthropologique cette affaire, est susceptible d'avoir un pouvoir sur le corps des femmes, quelquefois leur corps défendant, ou même parce qu'elles ne sont pas dans une relation de désir partagé. Vous savez, je suis aussi criminologue, je constate une chose, c'est qu'il y a chaque année 130 femmes qui sont mortes, qui sont tuées dans la vie domestique, dans le cadre des couples. Oui. C'est-à-dire sur 10 ans, 1300 femmes. Et vous savez, sans aller même jusqu'au viol ou aux relations contraintes, on comprend très bien la situation des femmes. Bien. Il faut donc, au moment où les femmes décident, et c'est mondial, c'est peut-être d'ailleurs une grande révolte du genre, à quoi on assiste, et en effet peut-être une révolution mondiale, qui aura tout à fait son importance. Je souhaite d'ailleurs qu'elle aille jusqu'au bout, parce que les femmes porteront à travers effectivement une oppression dénoncée pour elles, l'oppression de multiples femmes, peut-être des femmes d'Iran, des femmes du monde arabe, etc.
Alors pourquoi ne pas écouter cette femme-là, Jean-Pierre ?
Parce que tout n'est pas soluble dans tout. Mais, et tout ne se ressemble pas.
Pardon, mais là, attention. Nous voyons justement à quel point tout cela pose problème, puisque la question est posée immédiatement en termes de crédit ou discrédit. Mais il est important, en effet, d'entendre des femmes qui choisissent de dire les choses et de porter plainte et de se faire entendre. Pour autant, dire immédiatement qu'elles sont victimes, c'est agréditer le fait qu'elles le sont. Or, il faut que les choses soient jugées pour que nous sachions.
Les débuts de l'affaire
c'est bien mon problème.
C'est ce qui se passe avec l'hashtag Balance ton corps et MeToo. Et vous avez mis des réserves dès le début. Mais...
C'est bien mon problème. C'est que ça nous met dans une position compliquée. Et cette affaire-là le prouve. Pourquoi ? Parce qu'il y a une parole. Bien sûr qu'il faut l'entendre, mais la question n'est pas de créditer ou de discréditer. La question est de demander les éléments qui vont permettre de décider et de ne pas accuser sans preuve. Donc, il s'est peut-être passé quelque chose. Mais pour le savoir, il faudrait une enquête. Je ne discrédite aucune parole en disant ça.
Mais
je dis que je voudrais...
Il ne peut pas y avoir enquête parce que les faits sont prescrits.
Mais ce serait profondément injuste de décider qui a...
C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir d'enquête. C'est-à-dire que d'abord, les faits sont prescrits. Et d'ailleurs, il y a même eu quand même une audition contradictoire de l'un et de l'autre. Donc, la seule solution, c'est de s'en remettre à la justice. Qu'est-ce qui aurait dans ce cas-là rendu légitime un article de cette nature ? Est-ce que nous serions dans une société qui, par son système législatif, interdit de reconnaître les violences aux femmes ? Alors, ce serait nécessaire. Est-ce que nous serions dans une société où les institutions, et notamment les services de police et de justice, soient par indifférence ou par refus, ne prendraient pas en compte les victimes, les agressions dont elles sont l'objet ? Est-ce que ce serait le cas ? Honnêtement, je ne le pense pas.
Et donc, pourtant, beaucoup de femmes ne font pas ce pas-là.
Dans une société, parce que là, elles se sont peut-être donné le courage à plusieurs, je le comprends bien, mais dans une société démocratique, je ne vois pas d'autre solution que le droit et la justice pour distinguer le bon grain de la vérité et l'ivraie de l'erreur ou de la malveillance.
Oui, mais,
Raphaël Luchman.
Je comprends, hein, mais... C'est pour ça que je suis extrêmement mal à l'aise, en fait, par notre conversation. Oui, c'est-à-dire
Qu'est-ce qui vous rend mal à l'aise ?
Mais parce que, au nom de quoi, effectivement, ne pas prendre en compte le témoignage de cette femme ? Et si elle a décidé de parler, au nom de quoi ?
Jean-Pierre Mignard dit qu'elle ne veut pas.
La presse ne relayerait pas. Alors moi, je trouve que effectivement, en l'état, c'est pour ça qu'il y a un malaise extrêmement profond. C'est qu'en l'état, c'est soit trop, soit pas assez. C'est-à-dire c'est là le problème. Mais ensuite, quand on va dire, ce n'est pas le travail des journalistes de reproduire ces témoignages ainsi. Peut-être ainsi, mais dans ce cas-là, toutes les enquêtes journalistiques qui ne passent pas par la justice, c'est-à-dire que ils enquêtent sur des actions illégales de nos gouvernants, et ils font une enquête de journalistes. Et donc, cette enquête de journaliste, elle est livrée au public avant même que ce soit livré à la justice.
Jean-Pierre Mignard.
Je vais vous dire une chose. Bien sûr, il y a le secret des sources. En l'espèce, d'ailleurs, il n'a pas été conservé, respecté, puisque, ouais. Si j'ai bien compris, cette personne nie avoir voulu médiatiser son affaire. Donc, je suppose ça, d'ailleurs, que je refuse même de...
C'est pour ça que le magazine L'Hebdo ne la cite pas et qu'il emploie un autre nom.
Il y a quand même aussi, quelquefois, des formes, pardonnez-moi, de subtilité qui sont à la frontière de l'hypocrisie, parce que l'on sait bien, effectivement, que d'autres vont, effectivement, avoir l'identité que la personne ne souhaitait pas avoir. Donc, déjà, il y a même, dans les sources même de l'article, un profond malaise, car, encore une fois, nous sommes dans une question qui touche les relations sexuelles, l'intimité de la vie privée des personnes. Est-ce que ce que l'un pouvait penser d'un consentement et de l'autre, etc. C'est une vieille histoire qui existe dans les couples depuis des siècles ou des siècles, et où des femmes, dans le cadre du mariage, se sont vues imposer des relations sexuelles qui étaient bien souvent beaucoup plus contraintes qu'acceptées.
Natacha.
Oui, bien sûr que la question, elle est profondément subtile et complexe.
Parce qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas subtil en l'occurrence, c'est faut-il du coup dire à tout le monde d'arrêter d'écrire avec l'hashtag MeToo ou le hashtag Balance ton porc, Jean-Pierre Mignard. Faut-il que tout passe par les tribunaux? Et vous savez, parce que vous êtes avocat, qu'on dira, voilà, vous prêchez pour votre business. Oui, faut-il judiciariser absolument tous les rapports sociaux? Non, mais je me fais l'avocat de votre diable.
Enfin, ouais, Ali, c'est pas la même chose, là, on parle d'un viol. Et c'est pas tous les rapports sociaux. Soit c'est un crime, c'est un viol. Soit, en revanche, ce sont des rapports de consentement et de désir. Et là, c'est plus complexe et ça relève de l'intime.
Et la justice a été saisie. Et la gendarmerie a
fait une enquête. Mais quand elle ne peut pas enquêter parce qu'il est trop tard.
Ah, mais alors là, dans ce cas, mais vous savez que la législation a beaucoup évolué, notamment en modifiant considérablement, précisément, les délais de prescription. Et ça me semble en effet une bonne chose. Ce que je comprends très bien dans le mouvement collectif de prise de parole des femmes, non seulement que je comprends, mais que je soutiens, et je pense que ça peut être un progrès général de la civilisation.
Sauf là.
Ce que je veux dire, c'est que les prises de parole collectives sur le comportement de certaines personnes ou individus ayant un pouvoir et abusant de la faiblesse des autres, je pense qu'effectivement, ça s'adresse non pas à la personne, le port, etc. Ça s'adresse au pouvoir public pour leur dire, il faut nous donner les moyens judiciaires et policiers, notamment de faire en sorte que lorsqu'une plainte est déposée par une femme, elle soit prise en considération. Il y a eu d'immenses progrès sur ce point, il y en a certainement à accomplir. C'est-à-dire, il y a une question générale qui concerne la criminalité dans ce pays, qui est celle-ci. C'est ça que je comprends dans la parole collective.
Il y a quelque chose de plus dans MeToo que cela. Il y a l'idée... Alors, c'est une idée dont on va voir qu'on peut la discuter, mais qui en tout cas a produit des choses jusqu'ici extrêmement positives. L'idée que l'agresseur devra penser au qu'en dira-t-elle. C'est-à-dire que l'espace public où je livre mon histoire, moi qui ai été victime, eh bien, peut inhiber des comportements ancrés dans des systèmes de domination sexistes depuis des siècles et des siècles. Et donc, il y a plus qu'un appel à la justice, il y a un appel à l'opinion. Or, là, le problème qui se pose à nous, et c'est pour ça que ça me met extrêmement mal à l'aise, je le répéterai 100 fois s'il le faut, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, on est effectivement dans un moment où on risque de perdre... ce que les femmes, d'ailleurs, en parlant, ont construit depuis 4 mois. Et quand je vois la volée de bois vert de tous les éditorialistes qui nous expliquent là, vraiment, non, c'est une rumeur, c'est infondé, on ne croit pas, c'est scandaleux, et bien je me dis attention au retour de bâton sur tous les progrès qui ont été accomplis depuis 4 mois.
Oui, mais allez-y, je vous en prie. Bon, les retours de bâton tiennent essentiellement à la formule qui a été choisie pour la narration de ce qui est, le mot est faible, un malentendu entre deux personnes qui peuvent avoir eu une relation sexuelle, ouais. Et puis la narration, car encore une fois, les institutions.
Parle de viol, donc c'est pas un malentendu.
La personne ne veut pas qu'on l'évoque. Ouais. C'est ça, vous comprenez, qui pose le grand malaise qu'on reçoit, c'est que cette affaire, compte tenu des positions qu'elle prend, que je comprends d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des questions d'intimité, etc., on a fait d'une affaire qui est redevenue strictement privée au regard de ce que nous savons maintenant, un grand et très long débat, ce qui me gêne, et vous avez raison, il peut y avoir, à travers effectivement ce type de cafouillage, et pire que ça même, il peut y avoir le sentiment de dire, décidément, ça va trop vite, ça va trop fort, ça va trop loin, en ce qui concerne effectivement la prise de parole des femmes. Donc faisons très attention, et dans une société démocratique, je vous assure, on n'a pas d'autre solution. La justice et la police. et le droit.
Et j'ajouterais une chose, c'est que vous voyez bien, Raphaël, que finalement, dans ce que vous dites, il y a l'idée induite que parce qu'il y a un témoignage de victime, c'est ce témoignage qui serait dans le vrai. Et c'est ça qui me gêne. Il faut écouter des témoignages, mais pour autant, il ne faut pas partir du principe parce que c'est un témoignage de victime, il dit vrai. Il y a ensuite tout un travail d'enquête. Et deuxième chose, je pense que nous sommes en train de faire évoluer le droit d'une façon excessivement dangereuse. D'abord, ça s'est fait à travers les questions de harcèlement moral au travail et c'est en train de toucher les questions de harcèlement sexuel. C'est l'inversion de la charge de la preuve. Et cette inversion de la charge de la preuve devient profondément dangereuse parce que n'importe qui peut être accusé et gardera ce stigmate. Pour ma part, je trouve que notre droit est fondé sur la présomption d'innocence. Inverser cela n'est pas anodin.
C'est bien pour ça que je disais que ce n'était pas qu'une affaire de droit. Parce que, effectivement, il ne faut pas inverser la charge de la preuve dans le droit. Mais il y a ensuite des phénomènes sociaux, des faits sociaux. Et si peut-être 2% des témoignages, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les sans-abri. C'est-à-dire qu'il y a des cas de gens qui refusent d'être abrités, mais c'est pas une loi générale. En règle générale, les gens sont contraints à dormir dans la rue. Eh bien, il peut y avoir, bien sûr, des accusations fausses. Mais en règle générale, eh bien, ce qui se produit, c'est la dénonciation d'un fait social qui fait que les femmes se retrouvent dans une situation de dominée où elles sont harcelées. Et donc là, on n'est plus dans le droit, là, on est dans la réflexion sociale et politique, du coup, dans le domaine de l'opinion publique, avec toutes les dérives que ça peut comporter.
Oui, Jean-Pierre Mignard. Je refuse les femmes et les hommes.
Mais c'est pas faux. Je veux bien admettre que dans certaines situations, effectivement, des groupes de gens en situation difficile ont besoin d'être ensemble pour dénoncer, y compris pointer le comportement de personnes qui profitent de leur pouvoir. On l'a bien vu. L'immense différence, et d'abord, je suis d'accord avec ce que dit Mme Pauline, c'est vrai que, d'une part, il dit « je n'ai pas, s'il y a eu relation, je n'ai pas perçu cette relation d'une manière contraignante ». Et là, vous vous rendez bien compte qu'on rentre presque dans une situation quasi anthropologique, qui est la relation des hommes et des femmes, et où quantité d'hommes, je suis désolé, sont tellement contents lorsqu'ils ont des relations sexuelles, en disant « je vais produire un plaisir tellement majeur » qu'on ne s'intéresse d'ailleurs jamais tellement à ce que peut penser l'autre. J'ai bien aimé d'ailleurs la tribune de Tristan Bannon hier dans Le Monde. Alors c'est première chose, mais là, ça intéresse nous les hommes. C'est une question qui est notre accès à un autre rapport vis-à-vis des femmes, et peut-être des rapports entre les hommes aussi, je vais presque dire un rapport de civilisation. C'est pour ça que ce mouvement des femmes est extrêmement important. Et d'autant plus important qu'on doit effectivement faire en sorte qu'il ne soit pas instrumentalisé. J'allais dire aussi, pourquoi choisir un ministre, etc. Je veux dire, il peut y avoir aussi des pensées politiques.
Hein. C'est une question, peut-être qu'il y a une pensée politique.
On n'est pas naïf non plus, quand même. Hein.
Non, et en l'occurrence, c'est vrai que c'est très particulier parce que ça concerne un homme politique très populaire.
Le problème de cette émission, c'est que là, on va aboutir à des questionnements alors qu'on n'a pas le début du commencement d'éléments pour dire que c'est quelque chose de politique. C'est-à-dire, est-ce que c'est politique, est-ce que c'est pas politique. En fait, on va pérorer et on va finalement aboutir à faire du commentaire sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, à potentiellement suspecter une personne qui dit avoir été victime de viol d'avoir des intentions politiques.
Non, c'est évidemment un agenda caché qui empêche, qui ne voudrait pas que j'aille jusqu'au bout de ce que j'ai engagé comme chantier pour l'écologie.
Donc, je ne vous suspectais pas.
On ne va pas ouvrir le débat là-dessus. Ce qui m'intéresse, Jean-Pierre Mignard, est-ce qu'il ne faudrait pas, en aucun cas, parler, par exemple, d'une plainte, une fois qu'elle a été déposée, avant que l'affaire ne soit jugée, qu'on soit arrivé au terme des appels, éventuellement, ultime.
Les plaintes peuvent même être rendues publiques, ce qui n'était pas le cas avant une loi qui a été changée. Les procureurs de la République peuvent communiquer, les policiers, quelquefois d'ailleurs, ne s'en privent pas, les avocats quand même aussi, en général en prenant ce qui leur convient. Les juges d'instruction ont même la possibilité, quelquefois, de faire des interventions. Les parties civiles ne sont pas tenues.
Mais là, vous avez été choqué qu'on parle de cette plainte qui avait été déposée en 2008. Pourquoi ?
Non, pas du tout. Elle est classée.
Oui.
Elle est classée après audition. Donc, à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui relève du droit. On ne va pas exhumer quantité d'affaires comme celle-ci. La preuve, et je suis d'accord avec Raphaël Glucksmann, nous ne faisons que parler sur... Alors, j'espère qu'on n'en parle pas de manière trop vulgaire, mais je ne pense pas, vu la compagnie, sur des sables mouvants. à échafauder, à anticiper, à dire pourquoi, etc. Ça, ça s'appelle effectivement la rumeur.
Mais ou ce alors... qui est de l'ordre du fait, c'est un ministre qui devance la publication d'un hebdomadaire, qui prend la parole en public. Oui. Sa collègue Marlène Schiappa, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui intervient aujourd'hui dans le JDD pour le soutenir également. C'est-à-dire qu'il y a du fait, en l'occurrence, quelque chose qui se passe sur la scène politique, qui n'est pas anodin.
C'est évident, parce que lorsqu'effectivement, là, ce serait le crédit moral, l'honorabilité d'un ministre qui est susceptible d'être mis en cause ou qui est mis en cause, il va de soi que ça suppose effectivement qu'un il réponde. Alors, il y a ensuite des phénomènes de solidarité gouvernementale, on comprend bien. Tout ça, malheureusement, nous tombons très vite dans le rudimentaire. Moi, je n'y peux rien, mais c'est ainsi. C'est la vie. Mais je pense qu'à l'origine, c'est l'article qui était très rudimentaire.
Je reprends ma question. Quoi de différent, parce que tout le monde considère qu'on est sur des sables mouvants, quoi de différent entre cette parole de femme qui est restitué dans cet article, bien, pas bien, je ne suis pas là pour juger, et le témoignage d'une femme sur Twitter. Pourquoi faut-il prendre autant de précautions sur ce cas et pas sur d'autres qui...
Sur ce cas, d'ailleurs, je n'ai rien à dire sur la manière de ce qu'elle dit, d'ailleurs, puisque elle dit, c'est son opinion, elle a déposé plainte, manifestement, en choisissant de le faire à une période où il y a prescription, c'est-à-dire ne souhaitant pas qu'il y ait des poursuites pénales. Moi, ouais. C'est ça que je déduis. Nous avons une femme cultivée, manifestement stricte, et qui d'ailleurs ne souhaite pas, c'est pour ça que je ne donne pas son nom, que ce, et qui dépose plainte après la prescription. Alors effectivement, ça revient peut-être à ce que disait Raphaël Guzman, on est dans une affaire privée où il y a une excroissance publique. Bon, est-ce que ça justifie qu'on en parle tant? Sans doute parce qu'il y a ce grand mouvement des femmes. Mais faisons attention, ne soyons pas non plus des intrus envers et malgré nous, parce que le malaise que j'ai ressenti avec ce papier, c'est que nous étions mis dans une situation d'intrus et de choses que peut-être on n'aurait pas dû savoir. On a le droit de savoir, c'est démocratique. Oui. On n'a pas le droit de tout savoir.
Mais je pense aussi qu'il faut distinguer le témoignage et le statut de ce témoignage qui est le même que celui d'autres femmes, encore une fois, même si Jean-Pierre Mignard a raison de le souligner, visiblement, elle, justement, n'avait pas souhaité témoigner, ça change tout. Mais il faut distinguer la question du témoignage d'une femme de la question d'un article de presse avec le rôle que les journalistes jouent dans cet article. C'est-à-dire que chacun doit rester dans sa position.
Différence entre un témoignage brut, par exemple, qui s'exprime sur Twitter, et le travail de journaliste dans un magazine.
Le travail d'un journaliste est d'enquêter sans se substituer à la justice, mais d'apporter une information parce qu'elle joue un rôle démocratique. La question est de savoir quelle information et quel rôle démocratique dans ce cas-là. Je pense que c'est un problème de déontologie journalistique, c'est pas un problème de crédibilité ou pas d'un témoignage.
C'est pour ça que je voulais pas en parler maintenant, parce que je pense, vu la qualité de la direction de ce magazine et les enquêtes que ces personnes ont faites dans le passé, que c'est pas possible que ça se limite à cela. C'est-à-dire que c'est pour ça. Moi, je pense que on va voir. Mais si jamais, non, mais j'en sais rien. Mais je ne sais pas. Et le fait est que je n'imagine pas qu'il n'y ait pas une enquête plus fouillée que cela derrière. Si c'est que cela, effectivement, c'est un problème immense d'avoir publié le témoignage tel quel. Il aurait dû être publié sur Facebook comme les autres témoignages ont été publiés.
Jean-Pierre Mignard.
Je pense en effet que les journalistes ont une responsabilité particulière, à mon avis d'autant plus importante avec le numérique et la profusion des messages, parce que ça c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle peut tout charrier. Qu'est-ce qu'il va faire dans les années à venir qui fera que nous allons pouvoir vérifier ce qui se dit dans la profusion de ce qui a le droit d'être dit? Et puis de ce qui a fait l'objet d'une enquête et d'un travail déontologique, les journalistes. Donc j'aurais besoin d'aller sur les sites des journalistes, sur le travail des journalistes, pour effectivement me garder de la rumeur, de la malveillance, et pour me fonder une idée. Et à ce moment-là, les journalistes deviennent ce que la Cour européenne des droits de l'homme leur demande d'être, les chiens de garde de la démocratie. Mais ça leur demande une grande exigence déontologique et peut-être des formes de collégialité éthique qui manquent encore dans la profession. Je le dis parce que j'enseigne le droit de la presse et donc je suis responsable, co-responsable depuis très longtemps.
Et que vous êtes l'avocat de Mediapart depuis la fondation ce journal, oui. Alors, il y a 10 ans.
C'est très irritant, comme le canard enchaîné, mais ils sont presque jamais condamnés, donc ils font leur travail.
Mais c'était passionnant de vous écouter. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Raphaël, merci Natacha. Le grand débat de France Inter se termine. Merci à Ophélie Vivier.